Kiff.
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 Oh, kiff.
Oh oui, kiff.
Kiff.
Kiff le mag.
Kiff, le magazine du grand kiff.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur EJ Radio pour ce troisième kiff mag de la journée. Troisième et dernier kiff mag. C'est la fin. Oh, déjà. Déjà, les jeunes cet après-midi, ils ont dit c'est trop court, oui. Ça passe trop vite, c'est pas possible. Mais pas dernier rendez-vous sur UG Radio parce que demain matin, on se retrouve pour le culte en direct. Vous pourrez suivre le culte du Grand Kiff en direct sur UG Radio. Donc si vous êtes trop jeune, trop vieux, vous n'avez pas pu venir, suivez le culte en direct sur UG Radio. Alors, nous avons deux invités cet après-midi. Je vais laisser chacun se présenter, dire le nom, d'où est-ce que vous venez, qui vous êtes. Et puis, on va commencer par parler d'un premier sujet, d'un deuxième sujet avec vous. Allez, à toi.
Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Mélanie Chevron. Et alors, entre autres choses, je suis investie dans l'association Coexister, qu'on vous présentera plus tard. Et puis, je suis aussi étudiante en théologie à l'IPT, donc Institut protestant de théologie de Montpellier.
Ouais.
Moi c'est Gustave, je suis un jeune protestant de Paris, de l'Oratoire du Louvre, et je suis investi dans ma paroisse, et je suis investi dans l'équipe jeunesse régionale, et je suis investi à Coexister, dont on parlera tout à l'heure.
Et dans plein d'autres choses. Gustave, il a 50 casquettes, des fois t'enlèves une casquette, il dit qu'il y a encore une autre casquette dessous. Alors Mélanie, on va commencer avec toi. Tu as dit que tu étais étudiante à l'IPT, alors pour nos auditeurs qui peut-être ne savent pas ce que c'est, tu peux nous dire déjà qu'est-ce que c'est l'IPT? Qu'est-ce qu'on y fait comme étude? Où est-ce que c'est? Voilà, je veux tout savoir.
Ouais. Alors l'IPT, je le disais, donc c'est l'Institut protestant de théologie. C'est une faculté, donc, comme son nom l'indique, de théologie. La théologie, qu'est-ce que c'est? Si on prend l'étymologie, c'est le discours sur Dieu. Donc à l'IPT, on va avoir des cours à la fois de langue ancienne, donc d'hébreu et de grec ancien, pour pouvoir lire les textes en version, dans laquelle ils ont été écrits. Et puis, on va avoir d'autres cours d'histoire, par exemple, de l'histoire ancienne, de l'histoire moderne, de l'histoire contemporaine. On va avoir des cours de dogmatique pour un peu questionner les concepts et puis les principes de ce qu'on croit, etc. Et puis voilà, qu'est-ce que j'oublie? De la systématique avec de la philosophie, des choses, voilà. Bon, plein de choses, très diverses et variées. Et voilà, donc il y a deux facultés en France, celle de Paris et de Montpellier.
C'est la question que j'allais te poser.
Voilà.
Donc toi, tu es à Montpellier, donc il y en a une autre à Paris.
Ouais. C'est ça.
Et il y en a une autre qui est encore différente à Strasbourg, c'est encore
c'est
autre
ça.
Chose.
Oui, c'est une faculté publique à Strasbourg, alors que l'IPT, c'est une faculté privée.
Et à Genève aussi, francophone.
Ouais,
on a des pasteurs qui viennent de quatre facultés différentes.
Ouais. C'est vrai. Dans notre église, on a des pasteurs qui peuvent venir de quatre facultés. Alors, tu es en quelle année?
Alors, moi, je suis plus ou moins en deuxième année.
D'accord.
J'ai un parcours un peu aménagé à l'IPT, voilà. On peut...
ne va pas demander pourquoi plus ou moins.
Non.
Alors, on prépare quoi comme diplôme à l'IPT?
Alors à l'IPT, on peut préparer tous les diplômes classiques, donc licence, master, doctorat. Le master pro, c'est en général pour devenir pasteur, mais les études de théologie forment des théologiens avant tout. Donc après, on peut devenir prof de théologie ou faire de la recherche par la suite, etc. Voilà.
Alors, pour nos auditeurs qui seraient un peu loin de l'église ou qui se posent des questions, c'est quoi un théologien? Tu peux nous dire un peu ce que
Vaste
c'est...
question.
Ouais, non, mais c'est ça, moi ça m'intéresse.
Un théologien, c'est, pour le dire simplement, quelqu'un dont le domaine d'étude est la théologie. Oui, bon, merci, on enfonce des portes ouvertes. Mais quelqu'un qui propose une réflexion sur la Bible, sur la conception de Dieu, sur... voilà. je suis désolée, j'ai pas.
Et donc, donc théologien, pasteur, je pense que les gens peuvent savoir. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres filières malgré tout si on fait théologie ou on peut faire d'autres choses en sortant de théologie?
Je pense que la théologie pour certaines personnes est aussi un tremplin et qui leur permet de rencontrer différentes personnes. Et enfin, il y a des gens qui ont fait théologie qui ensuite vont partir s'investir dans des associations comme Qu'est-ce qu'on peut c'était la CAT ou
ouais, la CAT. Comme journaliste peut-être.
Comme journaliste, voilà, il y a plein de
des FAP. Ouais.
La formation de théologie ne forme pas spécialement pour ces métiers, mais voilà, c'est en général des études qui questionnent personnellement et qui du coup où les gens se réorientent après dans des choses qui ont du sens pour eux, et donc ça peut être plein de choses très différentes. Même si le débouché principal c'est quand même pasteur ou voilà chercheur en théologie quoi.
Ah, moi, j'ai une question que je me pose toujours et je pose souvent à des étudiants en théologie, c'est comment on arrive en théologie ?
Alors, je peux parler que pour moi.
Bah voilà, oui.
Parce
c'est pour
que
ça
tous
que
les parcours sont très différents. Alors moi, j'ai fait des études de psychologie, donc j'étais intéressée quand même par le rapport à l'autre, on va dire. J'ai fait après des sciences de l'éducation. Et puis après, donc, j'ai fait un service civique à Coexister, dont on parlera tout à l'heure, qui a été un vrai moment de remise en question dans ma vie, où je trouvais plus de sens dans mes études, tout en... ce sont des études qui m'ont apporté, mais il me manquait un élément clé, je pense. Et puis, Coexister, justement, est venu remettre un petit peu ces questions spirituelles sur la table, parce que c'était mon activité, du coup, d'être service civique. Et donc, tous les jours, je pensais, je travaillais, je discutais religion avec d'autres personnes, de foi aussi, de différentes expériences. Et je pense que ça m'a moi-même re-questionnée, et j'ai eu envie... Enfin, je pense que j'imaginais un peu... être pasteur à 40 ans en reconversion professionnelle.
D'accord.
C'est un petit peu
donc
étrange comme conception.
Ça un peu dans la tête.
Je pense que je l'avais en tête. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit à différents moments de ma vie, mais je m'en sentais pas du tout prête ou capable pour le moment. Et puis finalement, du coup, j'ai décidé que, enfin, je me suis rendu compte que c'était la seule chose que j'avais envie de faire à ce moment-là, que je me posais des questions sur ma lecture de la Bible, sur ma foi, etc. Et que j'avais envie de placer ces questions un peu au centre de mes études. Et donc je me suis dit, pourquoi pas maintenant, en fait, pourquoi attendre 20 ans et voilà, je me suis lancée comme ça, avec un projet pastoral à la base qui se coud et se découd et se recoud suivant les périodes. Mais bien que c'est normal.
Wow. C'est normal.
Et qu'est-ce que tes parents en ont pensé quand tu étais lancée là-dedans ?
Ah ouais !
C'est une bonne question. Alors ma mère est... protestante, on va dire, plutôt de culture protestante. Elle me parle assez peu de sa foi à elle. Mais alors elle a été assez contente, un peu inquiète de voir que je me réorientais encore. Ça faisait déjà deux fois que je changeais de parcours d'études. Et mon père, ça a été compliqué au début parce que lui est athée assez convaincu et anticlérical. Et alors, je pense qu'il pensait que j'allais rentrer au couvent. Donc, ça l'a rassuré la première fois où il est venu à l'IPT de Montpellier, qu'il a vu que les gens étaient rigolos, qu'ils faisaient des blagues, qu'ils étaient, que c'était des gens normaux, on va dire. Et que c'était un lieu sympathique, en plus avec le jardin, etc. Enfin bon, c'est un lieu qui est assez apaisant. Et du coup, ça va mieux aujourd'hui. Je pense qu'il comprend pas mon choix, mais qu'il le respecte et que. Il fait en sorte de quand même m'accompagner là-dedans, même si il n'en comprend pas tout.
D'accord. Et du coup, si tu avais un jeune qui venait te poser la question en disant je me pose des questions sur les PT, qu'est-ce que tu conseillerais, comment tu lui dirais, est-ce que tu le pousserais, qu'est-ce que tu lui dirais pour lui donner peut-être envie de faire ça, faire ses études?
Moi, de toute façon, à chaque fois qu'une personne m'en parle, je l'encourage à le faire parce que ce sont des études passionnantes et qu'on y découvre plein de choses qu'on n'est pas forcément venu chercher à la base, mais qui sont tout aussi importantes. Et puis, je lui dirais de passer à l'IPT, juste de nous voir, de rencontrer des gens, de venir discuter, et puis de se lancer. Hein, si les conditions sont réunies, pourquoi attendre ?
Il est possible de visiter l'IPT
Ouais, alors avec les conditions sanitaires en ce moment, c'est un peu compliqué. Il faut prévenir un peu à l'avance, mais vous pouvez appeler l'intendant Michel Blin, qui vous recevra avec plaisir. Et puis il y a toujours des étudiants qui vivent sur place aussi au centre universitaire protestant. Donc il y a toujours un peu de monde pour faire visiter, pour discuter.
J'ai squatté l'été dernier en retour de woofing pour visiter Montpellier. C'est un super spot.
Cool. Moi, ça me fait penser que premier grand kiff 2009, je ne dis pas de bêtises après, il y avait justement des étudiants de l'IPT qui avaient aussi, qui présentaient, donc comme toi tu nous présentes aujourd'hui tes études, et qui disaient, il y avait eu toute une campagne de notre église qui disait « Pasteur, pourquoi pas toi ?» Ouais. Qu'est-ce que t'en penses ?
Bah oui, pourquoi pas toi ? Pourquoi pas toi qui nous écoutes ?
Bah ouais.
Ouais, tout à fait. Ça peut être n'importe qui. Je pense que parfois, on a un peu cette idée qu'on n'est pas assez. Pas assez, je sais pas quoi, mais pas assez. Moi, j'avais un peu cette pensée que c'était trop intellectuel pour moi. Trop poussé, je sais pas. J'avais des croyances limitantes par rapport à ça. Puis je me rends compte que bah, il faut juste se lancer et que si ça marche, enfin si ça marche pas, je veux dire, ça nous aura quand même appris quelque chose quelque part. Et puis que c'est des habitudes qui ont plein de portes d'entrée différentes. Ça peut être l'histoire, ça peut être les langues, ça peut être la philosophie, etc. Et que chacun y trouve, encouragerait la personne à essayer. Si ça l'attire, il faut en général suivre ses intuitions comme ça dans la vie, je pense.
Alors, excuse-moi. Alors, normalement, on est en direct à nouveau. Ouais, c'est bon. Donc, on a entendu une petite discussion en attendant que ça revienne. Alors, on a été coupé, nos excuses. Comme on vous a déjà dit, le réseau Internet ici, c'est top. Donc, oui, tu encouragerais un jeune à faire ses études, à s'engager, même s'il ne sait pas ce que derrière il va pouvoir faire. Ce qu'il va faire, en tout cas.
Oui.
Et comment, alors c'est ta deuxième année, comment tu vis moi, j'ai connu beaucoup de pasteurs ou d'étudiants en théologie. J'en connais certains qui viennent de finir, là, qui viennent d'attaquer leur stage, tout ça. Ils me disent que les études, c'est toujours un grand bouleversement, les études en théologie. Une remise en question continuelle, une remise en réflexion. Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Oui. Je l'ai vu dans ma promotion en première année, avec beaucoup de mes camarades. J'avoue que moi, je l'ai un peu moins vécu, mais parce que aussi, j'avais peu de représentation, je pense. J'avais toujours adopté cette position de lire les textes avec un recul, etc. Et donc forcément, les gens qui arrivent avec une pensée un peu... littéral de certains textes, etc., peuvent être choqués quand d'un seul coup on remet en question historiquement ce que eux croient. Et du coup, qu'est-ce qui subsiste à ça quand ce qu'on croit en fait n'a pas de fondement historique? Ben voilà, c'est peut-être là qu'on découvre aussi ce qui est de l'ordre de la foi et ce qui, enfin en tout cas pour moi, ce qui me fait vivre, quoi. Mais du coup, ouais, je pense que je l'ai un peu moins vécu en première année. C'est quand même, ça reste tout aussi passionnant et tout aussi questionnant tout le temps, mais pour l'instant pas de bouleversement, mais alors je n'attends que ça, hein. ça va arriver.
Ok, alors on est dans le grand kiff là, et j'aimerais aborder un dernier sujet avec toi avant qu'on puisse parler de coexister. Le thème du grand kiff, c'est la terre en partage. Comment toi, en tant qu'étudiant de théologie, avec ce que tu as pu déjà voir dans les cours, dans la fac, comment tu appréhendes ce sujet, la terre en partage ?
Question un peu compliquée.
Ah, je pose des questions compliquées.
Non, mais c'est très bien.
Les auditeurs me le disaient.
Je sais pas, c'est pas vraiment un thème qu'on a abordé frontalement dans les deux années que j'ai fait là à l'IPT. Ça peut arriver, hein, parce que parfois voilà, il y a des séminaires sur tel ou tel sujet. Moi, c'est juste le hasard des dates qui a fait que ça n'est pas arrivé quand moi j'étais là. Mais en tout cas, je pense que la fac de théologie, ça nous apprend une méthodologie pour lire les textes. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est utile pour aborder n'importe quel sujet de société, et notamment l'écologie et ce thème de la terre en partage, sûrement. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond à la question.
Non, ça répond à la question. Alors, tu as parlé de tes engagements, de ton parcours, et que tu as fait un service civique à coexister.
Ouais.
Qui t'a, du coup, m'a amené à réfléchir aussi à plein de choses. Avant qu'on parle vraiment de coexister, est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a fait, cet engagement, en tant que service civique ? Plus parler sur ton service civique, cet engagement dans une association. On parlera de l'association et on va y détailler plus. Mais ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton impression de ce vécu, de partir, je crois que c'est 10 mois à service civique.
Oui, ou... c'est ça, oui.
Ou à peu près.
À peu près.
Donc, j'ai plein de jeunes qui nous ont fait des retours en disant « Ah, moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, c'est intéressant. » Moi, je suis intéressé par justement quelqu'un qui a fait cela. Tu peux donner un témoignage de ça à nos auditeurs?
Alors, on va le voir, Coexister, c'est une association de jeunesse. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que je suis arrivée dans le service civique, on m'a fait confiance tout de suite. Je connaissais pas l'asso, enfin, vaguement, j'en avais entendu parler, mais sans plus. Et il y a vraiment, je me suis sentie tout de suite utile et avec, je pouvais être force de proposition et mes idées étaient entendues, mises en place, etc. On m'a accompagnée dans les projets que j'ai pu mener, etc. Je pense que c'est la chose que ça m'a le plus apporté, ça m'a donné confiance en ma capacité à mener des projets, à fédérer une équipe par la suite, parce qu'après je suis devenue responsable de groupe de Coexister Tours. Mais c'est fou quand même, c'est rare que dans une association on passe de service civique à responsable de groupe, même si bon, c'était pas non plus le poste incroyable, mais c'est, voilà, c'est ça que je retiens, c'est qu'on m'a fait confiance, quoi.
Tu peux peut-être faire coucou à des auditeurs tours, parce que moi je vois, non mais pas là, à la radio, parce que moi je vois les gens qui nous écoutent, où est-ce qu'ils sont, alors la ville, et j'ai des auditeurs de Tours qui sont en train de nous écouter.
Voilà, je leur fais coucou. J'avoue que je connais assez peu maintenant le comité de pilotage de Tours, mais je sais que ça continue et c'est très chouette.
Ok. Alors maintenant, à tous les deux, parce que je crois que Gustave, il va m'arracher la table, parce que on le connaît sur EJ Radio, il est déjà venu vous souvent, c'est un grand bavard, il a envie de parler. Tous les deux, puisque tu as dit que tu as participé à Coexister, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est Coexister? Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, et puis n'hésite pas à l'interrompre et à réagir.
Du woman interrupting. Oui, Coexister, c'est une association, un mouvement de jeunesse, une association gérée par et pour les jeunes, pour les faire travailler sur la question du fait religieux. C'est, on pourrait dire interreligieux, mais en fait, c'est plus que ça, parce qu'on accueille des jeunes qui sont aussi athées ou agnostiques, et donc on dit plutôt qu'on est interconvictionnel, on accueille toutes les convictions, convictions croyantes ou convictions non croyantes, et on travaille sur le fait religieux, on travaille sur la laïcité. Pourquoi ces deux sujets? Mais c'est parce que c'est des sujets qui sont dans la société, à la fois dans la société tabou, c'est quelque chose d'un peu intime de parler de sa croyance, tu vois, on peut en parler tous les quatre matins avec ton voisin de palier, ça ferait bizarre peut-être, je sais pas, il y a cette idée reçue. Et puis d'un autre côté, un sujet qui est très, voire trop présent peut-être dans les médias, où on ne parle que des scandales, ou alors c'est instrumentalisé par le monde politique pour désigner une communauté. Il y a des haines, il y a des incompréhensions qui montent. Et l'idée, c'est d'armer intellectuellement les jeunes qui n'ont pas les clés de lecture de l'actualité, pour qu'ils soient capables de décrypter cette question du fait religieux, de prendre du recul et puis de préparer la paix. On ne peut pas attendre qu'il y ait une guerre civile ou qu'il y ait... Voilà, il faut être capable d'avoir de la résilience dans cette société, et le moment où il y a un attentat, ne pas tout de suite tirer des conclusions hâtives et être capable de dire « Oui, mais moi j'ai un pote qui est lui-même musulman, j'ai un pote qui est juif et je sais ce qu'ils vivent et ça c'est différent, je peux mettre en perspective. » C'est terrible, parce que quand on croise des gens qui ont pas de, qui sont pas forcément croyants, ou qui ont pas de réflexion là-dessus, ils ne connaissent des religions que ce qu'on en dit à travers les scandales. Alors on intervient dans les écoles, et quand on leur demande le christianisme, nous qui sommes là un truc protestant, et christianisme, alors ils doivent mettre des mots clés, et ils connaissent pédophilie, les scandales de l'Église catholique, et puis sur l'islam ils connaissent terrorisme, ils connaissent djihad, et puis sur le judaïsme ils connaissent argent, cupidité. C'est terrible, c'est les jeux, c'est les blagues, l'humour qui transmet un antisémitisme séculaire, et en fait c'est au lieu de déconstruire les préjugés, c'est des blagues qui les confortent, qui maintiennent, parce que à côté de ça, ils n'ont pas l'enseignement, ils connaissent pratiquement rien, et puis ils n'ont pas d'amis juifs. Donc le coexister, c'est permettre de tisser des amitiés entre des jeunes de convictions religieuses différentes, pour mieux se connaître, mieux se comprendre, déconstruire les préjugés. Et puis on ne se contente pas de faire des moments de théoriques, de mieux se comprendre, c'est super. On fait des soirées débats, on fait des visites de lieux de culte, on fait des randos, des repas. Coexister, c'est avant tout des repas et des fêtes partagées, on fait toutes les fêtes religieuses, c'est absolument génial. Non, on ne se contente pas de faire du théorique, on fait de l'action commune. Le slogan de Coexister, c'est diversité de convictions et unité dans l'action. On ne va pas créer l'unité à travers cette diversité de convictions qui est un fait. On ne va pas faire un syncrétisme, c'est-à-dire mélanger dans un gros gouloubi-boulga toutes ces religions ou chercher absolument à en tirer juste voilà, le petit dénominateur commun et affaiblir la chose. Non, on a nos convictions, on n'est pas relativiste, mais on va construire l'unité. Voilà, non pas dans le théorique, dans la diversité de convictions, mais dans l'action. Qu'on soit croyant ou non croyant, on a envie d'agir pour le bien commun, d'agir pour la planète, l'environnement, la biodiversité, d'agir pour contre la grande précarité, d'agir sur les questions d'inégalité, d'agir. Voilà, on a envie d'agir et donc coexister. À côté de ces événements de dialogue, organise des événements de solidarité et envoie des bénévoles agir ensemble. Typiquement, moi, dans mon groupe local de Paris, on travaille avec les Young Caritas, les jeunes du Secours catholique, à distribuer des boissons chaudes, des madeleines aux personnes sans abri. Et les personnes sans abri, voilà, ils ont pas forcément, il y a déjà plein d'associations qui proposent de la nourriture ou quoi. Il faut les sortir aussi de leur isolement. Il y en a beaucoup qui meurent de dépression. Enfin, ils sont pas regardés comme humains. Et là, on a des bénévoles qui prennent le temps de discuter, d'échanger, de tisser du lien d'une rencontre à l'autre. Et ça, c'est vraiment crucial. Et coexister, voilà. Enfin, c'est une troisième chose, c'est les sensibilisations. C'est produire un contre-discours positif sur la diversité religieuse, que ce soit dans les médias, dans les tribunes. On a un plaidoyer très fort sur la laïcité, qui est un sujet tellement instrumentalisé, c'est terrible. On est dans différentes instances nationales et on porte la voix de la jeunesse sur ces sujets. Et on intervient dans les écoles. On a des accords pour pouvoir participer dans des classes. Et là, c'est incroyable. C'est des étudiants qui parlent à des lycéens, c'est des lycéens qui parlent à des collégiens, c'est grands frères qui parlent à un plus jeune. Et du coup, c'est plus le rapport avec un prof qui peut être une confrontation. Là, c'est vraiment une capacité d'ouvrir les esprits, ouvrir les cœurs, et puis c'est des jeunes, voilà, une musulmane, une juive, un chrétien, un athée qui rentrent dans la classe et qui discutent, qui sont pas dans la théorie juste des droits de l'homme, mais qui l'incarnent, et ça c'est très important pour notre société d'incarner la parole. Et qui, voilà, c'est par exemple un musulman qui commence à parler d'antisémitisme, et ben voilà, ça change toute la perspective. C'est plus le juif qui parle d'antisémitisme, et la pensée classique c'est il défend sa soupe, quoi, et puis il défend sa communauté. Non, là on renverse des perspectives, on bouscule, on fait des activités ludiques où c'est les jeunes qui parlent, et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, Engagez-vous à coexister, un mouvement de jeunesse qui propose aux jeunes de prendre des responsabilités.
D'accord. Donc coexister, c'est vraiment un mouvement de jeunesse.
Un mouvement de jeunesse, entièrement dirigé, 15-35 ans, mais c'est surtout des lycéens et des étudiants dans la vingtaine, ouais. À tous les niveaux de l'association. Il y a 30 groupes locaux en France et 10 salariés, il y a un siège social, il y a des moyens. C'est incroyable pour une association étudiante, il y a un réseau national et des moyens qui permettent d'agir vraiment, vraiment.
Ok. Tu veux rajouter quelque chose sur sa présentation?
Je crois qu'il a été très exhaustif.
Il y a toujours des trucs. Cool.
Il y a toujours des trucs à dire, c'est sûr.
Non, mais alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause musicale. Ça fait une petite pause pour nos auditeurs. Et on revient continuer de discuter sur le coexister, parce que moi, j'ai plein de questions à vous poser. Alors, une des dernières chansons qu'on va s'écouter sur le Kif Mag, puisque c'est notre dernier Kif Mag. Je vais faire plaisir à un de nos auditeurs de Tours, je vais lui faire plaisir. Je vais lui proposer Trinity, la dernière chanson, la nouveauté Trinity, nouveauté EJR Radio, que Trinity nous a gentiment envoyée. Il vient de sortir et ils nous ont proposé cette chanson Unbreakable. Et donc je vous propose d'écouter Trinity, ce groupe qui était à Saint-Malo, au Grand Kif, qui a fait le concert au Grand Kif à Saint-Malo. Et on se retrouve juste après avec Mélanie et Gustave pour continuer de parler de coexister, de leurs engagements, de tout cela ensemble. Allez, à tout de suite.
C'est nouveau sur EJR Radio.
Está su reino. No lo sé. pero lo que sé es que es un gran misterio que anhelo ver. Te pregunto, te pregunto, te pregunto, déjame verte. Dígame, ¿cómo puede ser que si estás aquí no te puedo encontrar, solamente anhelar? Dígame, te quiero conocer y con tus ojos ver que tu gracia y tu amor están escritas en la agenda de dedo. Es tu creación,
si todo esto es tu creación.
Te reconozco en cada situación,
te reconozco en cada situación.
Y caminamos hasta que tu amor al fin por siempre ganará. Mientras tanto veo tu cara con los demás que lloran por la maldad. Te pregunto, te pregunto, te pregunto, déjame verte. Dígame, ¿cómo puede ser que si estás aquí no te puedo encontrar, solamente anhelar? Dígame, te quiero conocer y con tus ojos ver que tú eres el, tu amor están escritas en la agenda de dedos. En ti puedo ver cómo podría ser si viviéramos todos tus sueños. ¿Cómo puede ser que si estás aquí no te puedo encontrar, solamente anhelar? Oh, te quiero conocer y con tus ojos ver que tu gracia y tu amor están escritas en la agenda de dedo.
Oh oui, kiff.
Kiff.
Kiff le mag.
Kiff le magazine grand kiff.
Et on est de retour en direct pour ce kiff mag, dernier kiff mag de la journée, dernier kiff mag du grand kiff. Et on est avec Mélanie et Gustave. Ça va les amis?
Ouais,
ça va.
Ouais, cool. Alors on était en train de parler de coexister. On a plein de questions qui vont venir. J'avais une question d'abord à Mélanie. T'étais en service civique à Coexister, c'était quoi exactement ton travail dans Coexister à ce moment-là?
Alors un service civique, il vient en renfort au groupe local, donc ça dépend beaucoup des besoins aussi de ce groupe local en question, quoi. Mais il a pas un rôle spécifique dans le COPI, il va pas être spécialement sur la communication, sur le dialogue, la solidarité, etc. Mais voilà, il s'investit dans toutes les tâches. Et puis c'est le seul qui est pas bénévole et qui du coup a un petit revenu. Du coup c'est lui qui impulse des projets par exemple. Enfin c'est lui qui passe beaucoup de temps dans l'association pour ça. Il a des formations aussi, il fait beaucoup de sensibilisation après ses formations, donc dans les collèges lycées comme Gustave nous a dit tout à l'heure, et donc ça lui occupe quand même pas mal de temps. Et puis qu'oublie-je,
qu'est-ce que tu as fait comme
des événements, des choses, des exemples de choses que tu as faites?
Oh là là, c'est loin. Je me souviens que j'avais participé à un projet du groupe interreligieux de Tours, qui était une table ronde sur la laïcité, justement. Et voilà, je me souviens de ça. Que dire d'autre ? On avait organisé une soirée sur le dialogue islamo-chrétien. Et du coup, on avait fait intervenir des personnes qui étaient à l'étranger via Lucie Chazalet, qui peut-être nous écoute, qui sait, et qui était elle-même partie voilà, à la rencontre de ces personnes. Je suis désolée, j'ai très peu d'infos, je sais très loin et je ne m'attendais pas à la question.
T'inquiète pas.
Mais c'était un beau moment de... On avait eu plein de gens de tranches d'âge très différentes et ouais, je me souviens que cette soirée était vraiment chouette.
Ok. Et du coup, Gustave, est-ce que tu peux nous parler aussi d'autres actions, que, des exemples concrets, des choses que vous faites ? Ça m'intéresse, moi, pour rendre encore plus concret.
Bien sûr.
Tu parlais, voilà, que tu allais voir les lycéens, mais voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu plus ?
Souvent, les jeunes qui arrivent à coexister, il y a un événement qui les attire plus que d'autres. Souvent, ils disent le dialogue. Là, faire une soirée débat, ça va être difficile, je ne vais pas savoir quoi dire. Et d'un seul coup, il y a un événement visite de lieu de culte. Ça marche à tous les coups. Alors, à Paris, on a visité plusieurs synagogues. On adore visiter synagogues, Copernic, Beaugrenelle, grande synagogue de Paris de la Victoire. Ou visiter une mosquée avec un imam qui t'explique tout, qui traduit les termes. La grande mosquée de Paris, elle est formidable, pédagogique pour ça. Et puis elle a une histoire incroyable, payée par l'État après la Première Guerre mondiale pour tous les soldats musulmans morts pour la France. Et ça remet un peu de perspective dans ce qu'on dit sur les musulmans aujourd'hui quand même. Et puis voilà, donc ça c'est ce type d'événement. Après il y a des événements autour de la bouffe qui marchent bien. Je me souviens, il y a un événement qui s'appelle Mimouna, j'en ai pas encore parlé. Mimouna, c'est un événement qui se passe au Maroc traditionnellement, donc à Pessar, la Pâque juive, les juifs doivent mettre de côté tous leurs plats à base de levain, donc le pain qui est levé, et donc ils, pour pas le jeter, ils le confient à leurs voisins musulmans, et à la fin de Pessar, les musulmans vont rendre voilà, tous ces produits. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Et bien, ils font des gâteaux et ils font une soirée commune entre musulmans et juifs, et ça s'appelle la fête de Mimouna, c'est traditionnel au Maroc qui a garder une communauté juive. Et donc, on avait fait ça dans une coloc juive à République, à Paris. C'était vraiment formidable. On aime bien aussi faire ce qu'on appelle les Chabiftar. Donc, l'Iftar, c'est la rupture du jeûne du Ramadan. Et c'est une grande fête. Et puis, Chab, pour Shabbat, c'est le vendredi soir quand on entre en Shabbat. Et donc, quand on fait un peu des deux, ça s'appelle Chabiftar. Voilà. Et puis, d'autres événements, on aime faire des soirées débats. Et les débats qui reviennent souvent et qu'on aime bien, c'est quand on articule religion et fait de société, religion et féminisme, par exemple les femmes dans les religions, on sait que c'est un enjeu aujourd'hui qui intéresse beaucoup les gens, les orientations sexuelles aussi dans les religions, un sujet un peu chaud comme celui-là, et puis l'écologie par exemple, c'est la question de la création qui revient. Et là, en période de Covid, on a dû adapter évidemment tous nos événements qu'on faisait en présentiel. On ne peut pas faire des randonnées comme on a l'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a cherché des idées. Au début, c'était des témoignages. Qu'est-ce que ça fait d'être un jeune protestant aujourd'hui en France ? Et puis, tu es en concurrence avec la dernière série du moment, ça ne va pas. Donc, il faut improviser. On a trouvé d'autres idées. Un truc qui a bien fonctionné, que je recommande, c'est d'organiser un événement calligraphie. J'ai trouvé un professionnel de calligraphie hébraïque avec une gestuelle incroyable. Et donc, il avait fait un montage à partir de... Voilà, donc, il y avait son direct sur l'écran, mais aussi son portable sur une perche au-dessus. Et donc, on voyait exactement le geste de sa main. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse reproduire en même temps chez soi, en direct. Et il expliquait, on a refait tout l'alphabet, l'histoire de chaque lettre qui veut dire un mot, quoi. Le bête, par exemple, c'est la maison, comme dans Bethléem, la maison du pain. Et c'est la deuxième lettre de l'alphabet, Aleph, bête. Donc, il raconte, voilà, la maison, elle pourrait être comme ça, vue de haut, avec la porte. C'est incroyable, l'histoire de l'alphabet hébreu. Et donc, il nous montrait ses œuvres et il nous a fait pratiquer. On a pu, comme ça, continuer à construire du lien malgré l'isolement lié à la pandémie.
Ok, merci. Alors, je me suis posé une question. Dans votre association, vous accueillez tout le monde, en fait.
Tout le monde. C'est les jeunes qui sont en responsabilité, mais après, les tranches d'âge sont plus larges. Si quelqu'un veut visiter la synagogue avec nous, on ne lui demande pas d'avoir moins de 35 ans.
Mais par exemple, vous avez aussi bien des gens qui sont athées que des... Alors, tu parles des grandes religions, le christianisme, l'islam et le... Et le judaïsme, mais les bouddhistes, vous rencontrez aussi toutes ces...
présent aussi. Ouais. On visitait le temple bouddhiste de Vincennes, qui était un ancien, avant d'être le temple de l'Union bouddhiste de France, c'était un pavillon pour l'exposition coloniale de 1931. Il y a une histoire intéressante. En plus, pavillon pour le Togo, ça n'a rien à voir. Et il montre, voilà, il te montre et t'explique. Quand j'étais à Lyon, je me suis engagé d'abord à Lyon. Il y a aussi un temple zen, donc un autre courant au sein du bouddhisme qui est très divers sur les pentes de au sud de Lyon, et là c'est très très impressionnant avec des Avalokitesvara, des sortes de saints bouddhistes, et puis voilà, un temple en bois magnifique. Ouais, donc il y a des bouddhistes au sein de Coexister, il y a des hindous, des gens qui préfèrent se définir comme déistes et qui sont peut-être un peu en recherche. Il y a de tout, des athées agnostiques. En France, on considère qu'il y a un tiers d'athées, un tiers d'agnostiques et un tiers de croyants. Ouais, donc on pourrait pas mettre de côté deux tiers de la population pour faire notre
définir
association.
Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas agnostiques.
J'adore définir. Alors athée, pour commencer, en fait, il faut repartir de l'étymologie, ça aide à la mémotechnique. Athée, donc le A privatif qui inverse le sens du mot suivant, enfin des termes suivants, et des théos, théologie, théophile, c'est Dieu, donc c'est ceux qui sont sans Dieu, qui préfèrent, dans l'histoire ça a été une insulte, ceux qui sont sans Dieu c'était les hérétiques, mais aujourd'hui ça a été un retournement de stigmate, c'est revendiqué, c'est quand tu affirmes que Dieu n'existe pas, ça peut être pour des raisons philosophiques, scientifiques, humanistes, il y a différentes manières d'être athée, et puis j'ai coutume de dire que tous les croyants sont athées d'une certaine forme de Dieu aussi. Quand on est chrétien, on est athée d'un Dieu violent, par exemple. Et le athée définit aussi le Dieu auquel il ne croit pas. C'est toujours intéressant de débattre avec un athée parce qu'il te met en confrontation foi et science. Et donc, l'athéisme nous interroge, comme l'écrit Laurent Gagnebin, théologien de notre Église. C'est des dialogues qui peuvent être très, très féconds aussi, au-delà de l'interreligieux, l'interconvictionnel. Avec l'athéisme, c'est passionnant. L'agnosticisme, c'est A privatis et gnosis, les gnostiques, c'est la science, c'est la recherche, et donc c'est ceux qui le respect du point d'interrogation, c'est ceux qui ne savent pas, qui disent qu'on ne peut pas définir une fois pour toutes si Dieu existe ou n'existe pas. Et après, il y a des agnostiques pratiquants et des agnostiques non pratiquants. On peut être agnostique dans sa façon de pratiquer le judaïsme, le christianisme, c'est intéressant. Est-ce qu'on est ou agnostique plus athée, c'est-à-dire on ne pratique pas, vous voyez ce que je veux dire, on peut être c'est toujours intéressant. Est-ce que je connais des juifs athées aussi.
Il y a un très bon épisode du podcast de Bonne Foi sur ça, sur les convergences qu'il peut y avoir entre certaines convictions et l'agnosticisme, et où on peut être de culture juive et être agnostique, on peut être de culture protestante et être agnostique, et donc avoir quand même, etc. Voilà, ça marche avec toutes les convictions.
Et puis c'est pas la religion, c'est pas qu'une histoire de croyance. Bien souvent, c'est une histoire aussi de famille, de d'héritage, de racines. C'est des colonnes vertébrales pour les personnes, et on peut pas simplement être dans la critique. En fait, quand on touche à ces sujets, on va très 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 profond dans les gens, dans les identités. Donc on a des gens qui croient pas forcément, mais qui ont on leur a transmis ce capital culturel, cet héritage qu'ils ont envie de transmettre aussi. Et qui les fondent, qui les structurent. C'est très intéressant de débattre sur ces petites différences sur la pratique, la non-pratique.
Moi, c'est clair. Je trouve ça super intéressant que vous présentiez à nos auditeurs en fait ce que vous pouvez partager avec les jeunes là, pendant ce camp, ces échanges.
Ouais, on a parlé de ça.
Ouais. Vous avez parlé de ça. Voilà, et nos auditeurs voient un peu aussi comme ça les réflexions qu'on peut amener aux jeunes. Alors, avant d'aller plus loin, une question, je pense qu'on a dit, vous la posez 200 000 fois. Il y a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelait Coexister. Vis-à-vis de l'association, ça a fait quoi? Ça a été positif, négatif? Ça a été. C'était marrant ou pas? Dites-nous un peu.
Ça a créé beaucoup de confusion, surtout, je pense. Alors, du coup, le film n'a rien à voir avec l'association Coexister. Mais c'est vrai qu'on nous l'a beaucoup, au moment où il est sorti, on nous a beaucoup demandé quel était le lien. Alors le thème est le même, c'est-à-dire celui des religions et du rapport qu'on peut avoir entre les religions. Mais le traitement est un peu différent.
Alors c'est pas que ça n'a rien à voir, ils se sont quand même inspirés de l'association, ils connaissaient notre association et on a eu un moment ils voulaient reprendre le logo de l'association. Notre logo est très fort visuellement et ça aurait bien fonctionné sur une affiche, c'est-à-dire que le X est remplacé par une étoile de David pour le judaïsme, le C c'est un croissant musulman et puis le T c'est une croix, et on a dû négocier pour que ce ne soit pas le cas et en fait je sais pas comment, par quel miracle ça a fonctionné avec leur puissance marketing, ils n'ont pas repris ce type de logo sur l'affiche. Et oui, effectivement, c'était un film qui reprenait les grands stéréotypes dans ses blagues, c'est-à-dire le prêtre, on lui fait des blagues autour de la pédophilie, il y a un moment où il dit j'ai bien dormi, et l'autre lui dit avec un bébé, oui, comme un bébé, il y a une blague comme ça. Et, et en fait, au lieu de montrer, il faut montrer des contre-exemples pour déconstruire les préjugés, montrer, je sais pas, que le musulman est progressiste. Là, donc c'est pas un vrai imam, et le juif, il est nervosé, donc c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir sur la déconstruction des préjugés. Après, ça abordait des thématiques autour de la religion. Pour certains groupes, ça a été un moyen de construire un événement. Il y a des groupes qui ont dit coexister parle de coexister. Puis nous le film on l'a pas trouvé forcément très très bon. Et puis il va passer. À l'époque c'était ça. Il y a eu confusion. Aujourd'hui c'est sur internet quand on cherche coexister sur la barre de recherche de ton moteur de recherche, c'est bataille de référencement. Pour l'instant. Okay. Pour pas qu'on reste sur la confusion.
Moi, ce qui m'avait un peu gênée, c'était ce moment où d'un seul coup, on comprend pas comment, mais ça marche, ça y est, ils vivent ensemble alors qu'ils se sont tapés dessus après, tout le long du film. Et je pense que c'est vraiment problématique dans le sens où on le dit bien que le vivre ensemble, c'est pas forcément inné, c'est pas forcément facile, etc. D'être d'accord pour pas être d'accord, c'est quelque chose qui s'apprend et qui s'apprend aussi une façon de communiquer, on va dire. Et qui s'apprend aussi dans un cadre bienveillant, alors que si on est avec des personnes qui font des blagues pour nous rabaisser toute la journée, peut-être que c'est pas vraiment le cadre idéal pour apprendre à communiquer ensemble.
Ouais, t'as dit un mot important, bienveillance, ça fait partie. On est entre bienveillance et sincérité. Pour avoir une vraie sincérité de parole, il faut avoir un cadre bienveillant, mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut critiquer, et on critique d'autant mieux que l'autre est ouvert à la critique. Et si on fait une caricature qui blesse l'autre, et l'autre il peut accueillir la caricature, on est libre de caricaturer, mais est-ce que ça va le faire changer? Moi, je pense pas, il va se braquer, et il va plutôt aller vers la radicalisation que vers le changement. Alors que si on est sur un groupe de dialogue d'amis et que l'autre émet une critique, mais du coup il y a une confiance, on sait que l'autre ne fait pas cette critique pour blesser, mais qu'il se pose la question, et bien là, à ce moment-là il y a un vrai dialogue, dialogos, il y a de la raison qui se met en place au milieu de cette émotion, et du coup on peut vraiment changer les consciences, ouvrir des perspectives, bouger les jambes. C'est des jeunes. L'idée de coexister, c'est de faire prendre du recul aux jeunes sur leurs convictions religieuses, de mettre un peu de perspective dans leurs convictions.
Ok, merci beaucoup. Alors je vais rebondir sur ce que tu as dit, tu as parlé de la bienveillance. On est dans le grand kiff. Le grand kiff, c'est le thème, c'est la terre en partage. Qu'est-ce que vous avez ressenti tous les deux en échange avec les jeunes, dans ce que vous avez pu présenter sur ce côté de la bienveillance? C'est aussi une des côtés de la terre en partage. Comment vous avez pu... donnez-moi un peu les retours que vous avez eus avec les jeunes, les réponses qu'ils avaient, les questions. Faites-nous vivre un peu ce que vous avez vécu avec les jeunes.
Alors nous, tous les groupes qu'on a rencontrés étaient très contents de nous voir, je pense. Et ils ont passé un bon moment avec nous. Alors, en plus, on a un petit jeu rigolo qui est un tabou sans tabou. Donc comme le jeu de société tabou, il faut faire deviner un mot en disant pas trois autres. Et du coup, ça met tout de suite une ambiance sympa. Et oui, j'ai trouvé que les échanges étaient plutôt bienveillants. Je pense qu'ils sont contents de pouvoir se retrouver pour ce grand kiff qui a été attendu et qui n'était pas sûr de pouvoir se faire. Et voilà.
Oui, je pense qu'il y a une articulation entre notre sujet et, ouais. et entre, tu parlais de bienveillance, mais aussi le mot de respect, respect de la vie de Schweitzer et respect de la création et respect, enfin, il y a, et respect de l'autre aussi dans ce qu'il est, ce qui n'empêche pas le dialogue et la critique, mais on peut articuler tout ça. Il y a la biodiversité, puis il y a la diversité aussi des identités, des convictions, et peut-être qu'on peut aussi faire le lien. J'ai la conviction qu'on aime quelque chose, on protège quelque chose d'autant plus qu'on le connaît, et que voilà, les militants écologistes gagneraient à faire un peu d'ornithologie, de naturaliste, de connaître les oiseaux, de connaître les constellations, parce qu'on voilà, la pollution lumineuse, on s'en rend compte une fois qu'on voit qu'il manque des étoiles là, par rapport à ce qu'on a d'habitude. On protège mieux une espèce en voie de disparition quand on voit qu'elle disparaît. Je participe à des trucs de sciences participatives du Muséum d'histoire naturelle où on recense les oiseaux de son jardin, ça s'appelle l'oiseau des jardins, et du coup ça te motive à apprendre les noms d'oiseaux. Et ben c'est un peu le même parallèle avec les religions. Il y a une richesse culturelle derrière les religions, au-delà de la théologie. Il y a des pratiques, des liturgies, des chants, de la cuisine, on aura d'autant plus de respect et d'estime mutuelle si on les connaît, si on pratique leur vocabulaire. Il y a un jargon incroyable dans chaque religion avec plein de termes hébreux, arabes, tirés du grec. C'est tellement riche, et coexister, c'est apprendre des mots pour penser des mots. C'est mieux travailler ensemble en parlant mieux, ouais. Je pense qu'on peut faire le lien entre ces deux types de diversité.
Si vous aviez un dernier témoignage que vous avez vécu sur le camp là, pour nos auditeurs, avant qu'on se quitte pour ce dernier Kif Mag, des choses que vous avez vécues pendant ces 3 jours, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans ce que vous avez pu vivre? Je sais que tu as été très occupée, Mélanie. Mais...
Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'adaptabilité de tout le monde, c'est-à-dire avec des conditions un peu compliquées, mais toujours plein de solutions trouvées et beaucoup de joie à être enfin là et à se retrouver, à ce que ce soit possible. Et ouais, c'est ce que je retiens.
Ouais, avec la pluie, et d'un seul coup on improvise autrement, il y avait déjà un plan A, un plan B. Moi j'étais impressionné, on a participé aussi à l'Alter Kif en grande partie, à tous ces bénévoles qui faisaient... c'est notre tranche d'âge, on est aussi dans la vingtaine, et donc on était aussi là volontaires pour accompagner les jeunes du Grand Kif. L'Alter Kif, c'était ça, et j'étais impressionné aussi par tous ces jeunes qui donnaient de leur temps et qui donnaient de leur énergie pour aider au Grand Kif, C'est peut-être un premier pas d'engagement ecclésial, d'envie d'en faire plus une fois de retour dans sa communauté. Et ça, c'est très beau, ouais, d'être catalyseur d'énergie comme ça.
Merci de ce beau retour. Merci d'être venu échanger pour ce dernier Kif Mag. Et bien, je vous souhaite une bonne fin de grand kif.
Merci, et toi aussi.
Et puis, rendez-vous avec nos auditeurs demain matin, 10h30, pour le culte. Et puis, une bonne continuation à coexister. Et que l'on puisse mieux coexister les uns avec les autres sur cette terre. C'est cela aussi, la terre en partage, c'est être les uns avec les autres et partager malgré nos différences, malgré nos façons de voir différentes, de pouvoir exister et coexister ensemble. Merci à tous, et puis je vous souhaite une bonne soirée. On va terminer avec, allez, dernière fois, vous en aurez marre, je sais, mais la terre en partage.
Ouais.
Bonne soirée, bye bye.
Laisser la terre en partage et son amour en héritage. Il nous a fait à son image, mais notre orgueil a fait des ravages. Depuis le début de notre histoire, on s'est donné tous les pouvoirs. Babel, Babylone, voilà ce qu'on a fait à celui qui nous donne la liberté. La terre en partage, comme un héritage, fait à son image les verts pâturages. A laissé la bonne nouvelle, une parole d'amour inconditionnelle, la bénédiction pour nous accueillir. On les a gardés pour nous au lieu de les offrir. Ils sont heureux, tous ceux qui sont doux, les hommes les traitent comme des fous. Dieu a fait d'eux de véritables sages, ils auront la vie et la terre en partage.
la terre en partage, comme un héritage, fait à son image, les verts pâturages.
Éternel est mon berger, je ne manque de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, son amour m'accompagne tous les jours de ma vie, je serai de retour avec lui pour toujours.
Nous on a envie de tout reconstruire, et se bâtir un bel avenir, sans fumée, sans carbone, ni plastique, pour un monde meilleur et plus authentique. Frères et sœurs, quelle que soit la couleur, à boire, à manger, de la chaleur dans les cœurs, accueillir l'étranger, vivre la solidarité, chanter le grand kiff pour toute l'humanité. La terre en partage, comme un héritage, fait à son image, les verts pâturages. La terre en partage, comme un héritage, fait à son image, les verts pâturages. Comme un héritage, la terre en partage.